Bienvenue sur Radio Grand Ciel dans l'émission Capitale, animée aujourd'hui par
Elisabeth Couget
et Christina Fauta. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Bruxelles.
À 1h20 de Paris par le Thalys, très proche donc, mais si différente par sa taille déjà, car elle ne compte qu'un million d'habitants environ, dont plus d'un quart sont des résidents étrangers.
Alors on dit Bruxelles ou Bruxelles ?
Bruxelles, en flamand Brussels, comme Auxerre ou comme 60.
60,
tu dis pas 60.
Oui, ce serait bizarre. Alors, ce n'est pas une très grande métropole, mais une ville à taille humaine.
À la fois une ville ancienne, dont témoigne la célèbre Grand Place, et une ville moderne avec le développement industriel au 19e siècle. Puis, à partir des années 50, une urbanisation, on peut dire, inégales et anarchiques, qui font que le premier abord de Bruxelles peut être déconcertant, déroutant. D'ailleurs, il y a un terme pour dire ça, de construire n'importe comment, c'est la bruxellisation.
Ah oui, c'est pas mal ça.
La ville est perpétuellement en chantier. On peut regretter d'ailleurs cette urbanisation brouillonne, ou bien est-ce un signe de vitalité ?
Eh bien, on laisse ça aux Bruxellois d'en décider, c'est ça. Mais ce n'est pas la plus belle ville d'Europe, comme
non,
on peut
non,
pas
non.
dire, très loin.
Mais elle regorge de trésors artistiques. Et puis on peut dire que toute l'Europe l'a voulu.
Ah oui, les Espagnols, les Autrichiens, les Hollandais, les Français, bien
Exactement.
Sûr.
Elle a subi 800 ans d'administration étrangère. Elle a été envahie plus de 50 fois pour finalement se retrouver
à la tête de l'Europe.
Oui, et c'est une capitale gigogne. D'abord, Bruxelles est en Flandre et c'est la capitale de la communauté flamande. Pour les Wallons, c'est Namur. Mais bien que flamande, Bruxelles compte 85% de francophones. Elle est aussi la capitale de la Belgique et enfin la capitale de l'Europe, le siège des communautés européennes et de l'OTAN. Elle est enclavée en territoire flamand, mais elle est un point de ralliement entre les cultures latines, germaniques et anglo-saxonnes.
Alors il aurait fallu 10 siècles pour que la modeste petite cité de Bruxelles, je vais y arriver, Bruxelles, voilà, qui est née sur les rives de la Seine, SE2NE, deviennent la capitale d'un continent.
Mais la renommée des Belges était très ancienne. Selon Jules César, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Mmh. Bien sûr, cette citation est reprise dans tous les manuels scolaires en Belgique.
C'est normal.
Quant à notre Clovis National, fils de Childéric, sais-tu que c'est le premier Belge à faire une brillante carrière à l'étranger ?
Avant de jeûner.
Revenons à Bruxelles. Donc depuis effectivement 1000 ans, enfin à partir de l'an 978, elle est d'abord gouvernée par la dynastie des ducs de Brabant, d'où d'ailleurs l'hymne la Brabançonne.
Ah, alors au XIIe siècle, elle n'est encore qu'une modeste ville d'étape entre Cologne et Bruges.
Mais sa situation sur les routes du commerce médiéval en fait un carrefour privilégié. D'ailleurs, Grand Place, en flamand, se dit Grote Markt, c'est-à-dire Grand Marché. Mmh. Et son histoire va s'accélérer quand le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en fait sa résidence en 1430. Bruxelles devient capitale du très riche État bourguignon. Et c'est alors une cité brillante et prospère. Elle se spécialise dans l'artisanat de luxe, tapisserie, orfèvrerie, enluminure, travail du cuir, dentelle. Et s'élèvent aussi des monuments gothiques avec de superbes retables ciselés.
Alors l'activité artistique est intense dans cette ville et c'est l'époque de Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, qui sont donc les primitifs flamands.
Oui, et de la famille Bruegel, Pietre Bruegel, Bruegel l'Ancien, donc, et ses fils. Et en 1515...
Marignan.
Oui, bien sûr, mais enfin en 1515 aussi, Charles Quint, petit-fils de Marie de Bourgogne et arrière-petit-fils de Charles le Téméraire, qui règne sur l'Espagne et les Pays-Bas,
c'est-à-dire la Hollande et la Belgique d'aujourd'hui.
Oui, et qui sera bientôt élu empereur germanique en 1519. D'ailleurs, avec la conquête de l'Amérique, Charles Quint pourra dire qu'il règne sur un empire où le soleil ne se couche jamais.
Et donc, revenons en 1515.
Voilà, Charles Quint arrive à Bruxelles en grande pompe pour se faire couronner. Bruxelles se pare de 1000 richesses. C'est vraiment une époque faste. Et en 1555, l'empereur Charles Quint passe son pouvoir à Philippe II, son fils, qui transfère à Bruxelles le gouvernement central des Pays-Bas. Et dès lors, Bruxelles devient une ville à vocation européenne.
Déjà.
Et en 1579, la province du Nord, donc l'actuelle Hollande, obtient son indépendance, mais la province du Sud, la Belgique, reste à la couronne d'Espagne.
Alors les guerres menées par Louis XIV ravageront Bruxelles.
Elle est bombardée en 1695. 4000 maisons détruites, la Grand Place rasée, sauf l'hôtel de ville. Et en 4 ans, elle sera entièrement reconstruite. Et l'Europe est subjuguée par la richesse de son décor et aussi par l'extraordinaire vitalité belge. Alors, je passe sur les occupations autrichiennes, françaises, hollandaises. Bon, et à la suite de la révolution de juillet à Paris en 1830, Bruxelles se soulève en août 1830.
Et tout ça, ça se passe au cours d'un, à l'opéra, au cours d'une représentation qui va déclencher la révolution.
Mais oui, exactement. Au Théâtre de la Monnaie, l'opéra de Bruxelles. Donc, on jouait la muette de Porticcio. Le thème était le soulèvement de Naples contre les oppresseurs espagnols au XVIIe siècle. Et les ténors chantaient à plein poumon.
Allez, vas-y, Christine.
Non, je vais juste le lire. Non. Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace ou la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté.
J'ai l'impression, amour patrie de...
Ça dit quelque
voilà.
chose.
Ça, dit quelque
ça
chose.
A été repris ailleurs.
Je
oui,
crois
ça.
Que c'est la deuxième strophe de la Marseillaise, il me semble. Alors le public, galvanisé en écoutant ça, se précipite dans la rue pour manifester.
Les troupes hollandaises sont chassées, l'indépendance est proclamée. Et Bruxelles devient tout naturellement la capitale du jeune État belge.
Et c'est une monarchie parlementaire.
Oui, le premier roi, c'est un Allemand, oncle de Victoria, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha. C'est un habile diplomate qui épouse la fille de Louis-Philippe, Louise-Marie d'Orléans, pour consolider son trône. En 1840, la Belgique est la deuxième puissance industrielle au monde, juste après l'Angleterre, grâce au développement de la sidérurgie, des chemins de fer et la construction des canaux.
Alors vers 1900, Bruxelles, on peut dire qu'est un important centre culturel et artistique, une capitale dynamique et moderne.
Avec les brasseries Belle Époque et les chefs-d'œuvre de l'art nouveau, les expositions universelles se succèdent, 1897, 1910, 1935, 1958. Elle est capitale de l'Europe en 1959. Et en avril 1993, la Belgique devient un État fédéral avec 3 régions distinctes, la Flandre, la Wallonie et la région Bruxelles-Capitale, composée de 19 communes. Capitale aussi aujourd'hui des 27 pays de l'Union européenne, elle compte 30 000 eurocrates.
Alors maintenant, on va peut-être avoir une petite pause musicale avant de continuer et qui nous permet d'écouter une partie de l'hymne national belge,
là, après des siècles,
bon sonne.
Après des siècles d'esclavage, le Belge sortant du tombeau. Oh oh.
Après l'hymne national des Belges, nous revoici à Bruxelles sur la célèbre Grande Place.
Un chef-d'œuvre d'architecture où l'exubérance gothique de l'hôtel de ville, donc début 15e, s'accorde à la fantaisie baroque des maisons des corporations reconstruites après leur bombardement par les troupes de Louis XIV en 1695. Selon Cocteau, le plus beau théâtre du monde. Selon Victor Hugo, qui y habita, la plus belle place du monde, classée bien sûr au patrimoine de l'UNESCO.
C'est le vrai cœur de la ville.
Et ce qui en fait justement une place unique au monde, c'est la grande diversité des styles décoratifs. Il y a du gothique, renaissance, baroque, tout cela dans une apparente cohérence architecturale.
Et le clou de tout ça, c'est l'hôtel de ville.
Le seul qui n'est pas brûlé, justement.
Qui a survécu au bombardement des Français.
Exactement. Et sa haute tour gothique s'élève à 97 mètres et au sommet, Saint-Michel, qui terrasse le dragon. À l'intérieur, un patrimoine exceptionnel de tapisseries, de tableaux du vieux Bruxelles.
Alors, face à l'hôtel de ville, on trouve la maison du roi.
Oui, superbe. Avec ses volées d'arcades élégantes, ses loggias, ses balcons, encadrant le portail, les statues de Marie de Bourgogne et de Charles Quint, la Grand Place fut un lieu de fête et de réjouissance, mais aussi le lieu des exécutions capitales.
Ah, c'est moins gai. Alors, de nos jours, on y célèbre la fête de l'Omégrang,
oui,
qui débute en juillet. De quoi s'agit-il ?
Alors, oui, elle commémore, en fait, le défilé de procession donné en 1549 à l'occasion de la présentation par l'empereur Charles Quint de son fils, le futur Philippe II. Donc, tu peux imaginer de magnifiques costumes.
Chatoyants. Voilà,
et mi-août, la Grand Place se couvre d'un magnifique tapis de fleurs, un vrai enchantement. Et il y a aussi des sons et lumières superbes en été et à Noël.
Alors, sur la Grande Place, il y a aussi de très belles façades des maisons des corporations.
Elles rivalisent d'élégance et de fantaisie. Par exemple, la maison des Bateliers a un fronton en forme de proue. La façade est ornée de cordages, de poulies, de cornes de brume, d'où d'ailleurs son surnom, le cornet, parce que toutes ces maisons ont un surnom, et de marins. Et sur la maison du boulanger, un ange joue de la trompette. Celle des brasseurs s'orne de feuilles de houblon, d'épis de blé, de scènes de vendanges et de cueillettes. La maison des archers, alors c'était les gendarmes
de l'époque,
oui. Elle présente un bas-relief où on voit la louve romaine qui allait être Romulus et Rémus, donc on l'appelle la louve.
Voilà. Forcément.
Et au sommet, un phénix doré.
Et comme l'oiseau, la grande place qui renaissait de ses cendres.
C'est ça. Et puis alors, dans la maison des peintres, qu'on appelle le Pigeon, Victor Hugo rédigea en 1852 son pamphlet contre Napoléon III, qui s'appelait Napoléon le Petit. Et à voir aussi, sur la Grand Place, la maison monumentale des ducs de Brabant, les maisons dites du Pan, le Haume, le Cygne. Alors le Cygne, c'était la maison des bouchers, parce qu'on mangeait du cygne à l'époque, attention. Et ces maisons des corporations symbolisent bien la richesse, voire l'opulence de Bruxelles. Et tout autour, l'îlot sacré, c'est-à-dire l'îlot protégé des ravages de l'urbanisme, un petit ensemble de ruelles bordé de frontons et de pignons qui rappellent encore la Bruxelles d'autrefois.
Alors dans ce quartier très très touristique, il y a de multiples restaurants, de brasseries, de cafés, une vie sociétale formidable.
Et puis les noms des rues rappellent le Grand Marché. Rue au beurre, rue des harengs, rue du marché aux herbes, rue des bouchers, rue au fromage. D'ailleurs, pour les peintres flamands, le thème favori après les évocations religieuses, ce sont justement les ripailles, les banquets, les noces, les kermesses, qui rivalisent en abondance avec les natures mortes, des monceaux de victuailles.
Alors à Bruxelles, on aime boire, rire et manger.
Kurnonski, alors c'était le prince des gastronomes. Il plaçait la cuisine belge au deuxième rang, juste après la française.
Ah.
Donc, pas que les moules frites.
Exactement, on y mange autre chose, certainement.
Alors, à l'opposé, à tous égards de la Grand Place, au coin d'une rue, la petite statue du mannequin Peace, qui ne mesure que 55 cm, la taille d'un bébé. Elle attire énormément de monde. Et cette petite statue, en fait, incarne l'irrévérence, l'esprit frondeur et malicieux de Bruxelles. Elle date de 1619 et c'est Louis XV qui, le premier, offrit au mannequin Peace un habit brodé.
Elle doit être très jolie. Alors, dans le musée de la ville, sur la Grande Place, il y a la Maison du Roi, qui est remarquable par ses riches collections, la salle des costumes, justement, du mannequin Peace, puisqu'elle a plus de 800 costumes qu'on garde pour lui aux grandes occasions. Une garde-robe que pourraient lui envier tous les poupées et tous les poupons du monde.
Exactement, toutes les poupées du monde. Alors maintenant, tout près, un petit tour sous les verrières des galeries Saint-Hubert, les premières galeries couvertes d'Europe, 1846. Une véritable rue intérieure de 200 mètres de long, d'un superbe style néo-renaissance.
Et si maintenant
nous, oui, si nous allions, comme les Belges aiment à le faire, boire une bière avant de poursuivre l'exploration de Bruxelles.
Alors c'est vrai, la bière c'est la boisson nationale. On dit que chaque Belge consommerait 150 litres de bière par an.
Oui, alors c'est l'estimation haute ça. Hein,
je crois que je ne serais pas une bonne Belge.
On a vraiment l'éventail du choix. Il y a plus de 450 bières différentes, blondes, brunes, blanches, rousses, ambrées, trappistes ou d'abbaye.
Alors quelle est la différence entre trappiste et d'abbaye ?
Alors les bières trappistes, il n'y en a que 7 dans le monde, dont 6 en Belgique. Ça veut dire qu'elles sont brassées par les moines eux-mêmes. Tandis que les bières dites d'abbaye ont gardé la recette et le nom, mais ce sont des brasseries normales, donc plus de moines. Mmh. Et prenons donc une bière, mais accompagnée de délicieuses spécialités, comme les gaufres de Bruxelles ou les célèbres chocolats Côte d'Or, ou encore les pralines, des bouchées au chocolat fourré, ou encore des spéculoos, ces biscuits croquants aux épices sucrées.
Quelle est la recette ?
Farine, beurre, œufs, sucre candi et épices, cannelle, gingembre, clous de girofle, noix de muscade, cardamome, poivre blanc et vanille. Il n'y a plus qu'à les faire.
Alors pendant qu'on va déguster un peu de ce très bon gâteau, peut-être avec du thé, plutôt pas la bière quand même, on va vous proposer une petite pause musicale.
Avec une allègre danse wallonne.
Alors, on n'a pas mangé beaucoup de spéculoos parce que nous avons encore énormément de choses à vous raconter à propos de cette ville qui n'est pas si grande que ça. Et il y a beaucoup d'autres joyaux architecture dans Bruxelles, après la Grande Place.
Oui, mais souvent, malheureusement, coincés entre des immeubles de bureaux des années 50 et 60. Une merveille gothique, la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule, patronne de Bruxelles, ses deux grandes tours, ses contreforts nervurés, ses clochetons, ses gables sculptés. On y trouve nombre d'œuvres d'art offertes par Charles Quint au XVIe siècle. Et c'est le cadre de la plupart des mariages princiers belges.
Alors, le jeune Auguste Rodin participa au décor de la façade de la Bourse.
Oui, et puis voici la place royale, style solennel, néoclassique, parfaite symétrie. C'était le site du premier château royal élevé à Bruxelles par Henri de Brabant au XIe siècle. Et elle fut le cadre de l'abdication de Charles Quint en 1555. De cette place, on a une jolie vue sur la ville, avec au loin l'énorme palais de justice.
Le mammouth.
C'est son surnom en effet. C'est le plus grand édifice d'Europe construit au XIXe siècle, 26 000 mètres carrés. Une construction délirante. D'ailleurs, l'architecte perdit la raison avant d'achever son œuvre.
Alors, dans le quartier royal, on trouve les plus beaux musées de Bruxelles.
Les musées royaux d'art ancien et d'art moderne. Le musée d'art ancien, c'est un véritable trésor national. Il possède de superbes primitifs flamands, dont les arrière-plans fourmis de paysages et de scènes de la vie quotidienne, mais aussi la Vierge à l'Enfant de Memling, la magnifique Lamentation de Botticelli, la Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, et puis la salle, bien sûr, consacrée à Bruegel avec la chute d'Icare, la chute des anges, le dénombrement de Bethléem où la scène biblique est présentée au cœur d'un village flamand.
Alors Bruegel dit l'ancien du XVIe siècle est un des peintres les plus importants de la Renaissance et ses fils Pierre, surnommé Bruegel d'enfer, et Yann Bruegel de velours.
Et puis beaucoup de Rubens, bien sûr, qui créa une quantité considérable d'œuvres, mais aussi Tiepolo, le Tintoret, Van Dyck, des Français comme Georges de la Tour, des sculptures de Rude et de Rodin.
Alors, et dans le musée royal de l'art moderne, qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, le Marat assassiné de David, la scène à la grande jatte de Seurat, des Ingres, Courbet, Gauguin, Bonnard, et puis Chagall, Picasso, etc.
Fernand Léger, je suppose.
Voilà, bien sûr, sans oublier quand même, typiquement belge, le surréalisme et le fantastique, représenté par James Ensor, Paul Delvaux.
Et René Magritte.
Ceci n'est pas une pipe. Magritte, donc à la fois star mondiale et génie national belge.
Et d'autres musées ?
Bruxelles compte 81 musées. C'est énorme. Et cela montre bien l'extrême richesse du patrimoine bruxellois. On ne va pas tous les citer. Exemple, la musique avec 7000 instruments, musée de la bière, du chocolat, de l'auto, Auto World.
Pour pouvoir parler de tout, il nous faudra la journée complète sur Radio Grand-Ciel consacrée à Bruxelles. Alors, il y a bien sûr le musée de la dentelle. Quand
où
même.
L'on voit la technique de la dentelle au fuseau parce qu'au XVIIe siècle, la dentelle flamande concurrence la finesse de la dentelle vénitienne et l'une des plus prisées, c'est la dentelle dite « Duchesse de Bruxelles » à cause du goût des cours européennes pour les collerettes et les fraises. Et puis le déclin, malheureusement, après, avec l'apparition des métiers mécaniques.
Et oui, comme un peu dans tous les métiers. Alors, et puis, bien sûr, il y a un musée typiquement belge.
C'est le musée de la bande dessinée, car Bruxelles, c'est la capitale de la bande dessinée, vraiment le véritable paradis. Avec l'école dite de Bruxelles, célèbre pour la précision du trait et les récits réalistes. Tintin d'abord, avec l'auteur Hergé. En fait, Hergé, c'était Georges Rémy, G.R., d'où Hergé. Tintin et ses 23 albums. Le premier, Tintin au pays des soviets, 1929, vient d'être réédité en couleur. Et sais-tu qu'en 2006, le Dalai Lama est venu à Bruxelles remettre à la Fondation Moulinsart une lampe à beurre clarifiée, oui clarifiée quand même, pour service rendu par Tintin à la cause tibétaine, Tintin au Tibet.
Et ce n'est pas une histoire belge.
Non. Autre héros de BD créé à Bruxelles, Cuic et Flupque, Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Achille Talon.
Je crois qu'on ne peut pas tous les...
Voilà, Astérix, Boulébi, tous ces personnages qui ont bercé notre enfance.
Et qui sont sortis du musée ?
Oui, pour décorer une cinquantaine de façades de Bruxelles et même des stations de métro. Et Bruxelles a une vie culturelle des plus riches.
Ah oui, effectivement. Nous avons déjà évoqué le Théâtre de la Monnaie, de l'Opéra de Bruxelles.
Et il y a aussi le concours de musique Reine Elisabeth, à la réputation internationale.
Je n'y suis pour rien.
Oui, non, c'est pas toi.
C'est pour moi.
Mais j'aimerais dire un mot des célèbres marionnettes du théâtre Toon, car elles présentent des parodies des grands classiques, comme Les Trois Mousquetaires, Roméo et Juliette. Et c'est vraiment un spectacle authentique et drôle, avec un savoureux mélange d'expressions flamandes et françaises, qui forment d'ailleurs le bruxellois. Et le héros, Voltier, le petit wallon, y prend la place du Cid ou de D'Artagnan, et on dit qu'il servit de modèle à Tintin.
Ah d'accord. Alors, autre aspect de Bruxelles, la ville est un haut-lieu de l'art nouveau.
Un haut-lieu de l'art nouveau avec des demeures comme l'hôtel Solvay, avenue Louise, la maison Autrique. Et puis cet art nouveau en fait qui s'est incarné en Belgique par l'architecte Victor Horta au tournant du XXe siècle. Et d'ailleurs on peut visiter le musée Horta, la propre maison et l'atelier de l'artiste. Et c'est un enchantement et un vrai manifeste de cet art nouveau.
Et d'autres découvertes encore,
Beaucoup encore d'autres. Par exemple, la maison de la Bellonne, rue de Flandre, c'est la plus belle façade de Bruxelles. Et puis intéressante aussi la maison d'Erasme, qui était un grand humaniste.
Erasmus.
Voilà, Erasmus, voilà. 15e siècle, l'éloge de la folie. On peut visiter sa demeure, superbe, avec des poutres massives, des murs tendus de cuir. En fait, on dirait à l'intérieur comme on peut en admirer sur les tableaux des peintres flamands.
Celle de Bruegel, l'ancienne, par
oui,
exemple.
Oui, dans le quartier populaire des Marolles, où on peut aussi apprécier... Voilà, par ailleurs, dans ce quartier des Marolles, il y a aussi l'animation du marché aux puces ou bien les restos sur les quais des anciens bassins. Et puis, le palais Stockley, il ne faut pas l'oublier celui-là, classé à l'UNESCO, un édifice incroyable, symbole de l'art nouveau viennois de 1910, et la salle à manger est entièrement décorée de fresques de Klimt.
Ça doit être merveilleux. Et puis, il y a des églises quand même, bien sûr.
Comme Notre-Dame des Sablons, de style gothique flamboyant, légère et élégante, une véritable dentelle de pierre. Ou bien, j'aime beaucoup l'église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage. Elle fut fondée en 1250 et elle abrita jusqu'à 1200 béguines. Voilà,
on va y arriver.
C'est un des plus beaux édifices religieux de la ville, avec une gracieuse façade et à l'intérieur un décor exubérant.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement les béguines ?
Les béguines, alors c'était des femmes qui vivaient en communauté religieuse, mais sans avoir prononcé de vœux perpétuels.
D'accord.
Alors elles portaient une coiffe justement, le béguin, d'où leur nom. Et comme il y avait cette expression ancienne, être coiffé de quelqu'un voulait dire être amoureux, être coiffé, porter une coiffe, avoir une coiffe.
Avoir le béguin.
Avoir le béguin, voilà.
Alors, il y a des parcs aussi, je suppose, à
celui du
Bruxelles.
Jardin, oui, celui du jardin botanique. Et puis, alors, les serres somptueuses du domaine royal de Laeken, un ensemble féerique de 160 hectares, où l'on découvre d'ailleurs aussi un pavillon chinois, une tour japonaise, et puis les jardins et les étangs autour de l'ancienne abbaye de la Cambre, en plein cœur de Bruxelles.
Alors, il y a l'époque florissante, rencontre de cultures, des sommets de là, comme la peinture flamande, le gothique flamboyant... Le symbolisme, tout ça, c'est à Bruxelles.
Tellement de choses à voir à Bruxelles, justement. Et puis alors, en guise de conclusion, puisqu'on parle de symboles, eh bien, un autre symbole de Bruxelles, après la Grand Place et le Mannequin Piece, érigé lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, et c'est un monument spectaculaire.
L'atomium.
Une molécule de cristal de fer agrandie 165 milliards de fois. la plus haute des 9 boules. Ce n'est pas les 7 boules de cristal, hein. Là c'est 9 boules. Elle est à 102 mètres de haut et comme la tour Eiffel, il devait être détruit, mais ne le fut pas.
Heureusement.
Et de nuit, éclairé, on dirait un vaisseau spatial clignotant.
C'est fabuleux. Merci Christine de nous avoir fait découvrir et voyager à Bruxelles, fière de ses traditions et tournée vers l'avenir. Et à bientôt sur Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission Capitale.
Avec, pour...
Accompagnement musical.
Accompagnement musical, bien sûr Jacques Brel. Une chanson qui n'est pas très connue, mais belle. Il faut savoir regarder.
Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle. Le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant, entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonderliefde, warme liefde, wijde wind, de stomme wind. Zonderliefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee. Zonderliefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il te rond de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, sur tes 20 ans, que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn houdt harde.